Toute la parole de Dieu est merveilleuse, mais l'apôtre Jean, il a choisi des signes, des occasions par lesquelles il veut révéler le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on en est arrivé au chapitre 5, et pour commencer, si vous voulez bien, les chapitres 5, verset 1 jusqu'au verset 29. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était là, déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Et lui demandèrent, « Mais qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Jean, il rattache constamment ses récits à différentes fêtes juives. On a déjà vu ça et on le verra encore dans les chapitres suivants. Et ici également, il dit qu'il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. On ne connaît pas ici la fête, d'habitude on précise, mais là c'est pas précisé, certainement parce que ça n'a pas de lien directement avec l'histoire, mais ça nous explique pour quelle raison Jésus se trouve à Jérusalem. Il était au chapitre 4 en Galilée et Jésus est venu pour la fête des Juifs. C'est une nouvelle section ici un peu dans notre dans le déroulement cet évangile. Dans les premiers chapitres, on a vu que les signes, les discours que Jésus faisait suscitaient l'intérêt, suscitaient l'étonnement, suscitaient même certaines hésitations. Parfois d'autres, tout simplement, croyaient placer leur confiance en Dieu. Mais à partir de ce chapitre 5 et jusqu'au chapitre 7, on va voir que ces signes et les discours du Seigneur Jésus vont provoquer non plus l'émerveillement, mais l'opposition. Une opposition qui va aller croissant jusqu'à vouloir le mettre à mort. Je voudrais ce matin évoquer le fait que la bonté de Dieu nous pousse à la sainteté et à la foi. C'est-à-dire, la bonté de Dieu pour nous doit nécessairement nous pousser à la sainteté et à la foi. Alors, je vous propose ce matin de voir la guérison, on verra ensuite le discours de Jésus, et puis enfin l'appel de Jésus. La guérison, ça c'est dans les versets 1 à 16. Jésus arrive à la piscine de Bethesda. Bethesda, ça signifie maison de miséricorde. C'est un bon endroit pour des malades d'attendre la miséricorde. C'est un lieu donc où s'entasse, si je peux dire, une multitude de malades. Vous avez noté ça au verset 3. Un grand nombre de malades sont là et attendent du secours. Ils sont là pour certainement bénéficier de l'aide des hommes, un repas peut-être, un vêtement, peut-être un soin, et puis en espérant que Dieu intervienne en leur faveur. Si vous avez une Bible qu'on appelle la traduction du Semeur, ou si vous avez une Bible, nouvelle Bible second, vous avez remarqué qu'il vous manque une partie du verset 3, la fin du verset 3, et tout le verset 4. Et en fait, ce verset, cette partie-là ne se trouve pas non plus dans les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament. Peu importe, certainement, ça a été ajouté un peu après, mais pour expliquer le verset 7 notamment. Vous avez remarqué, au verset 7, le paralytique dit au Seigneur, « J'aimerais bien être guéri, mais il n'y a personne qui est pour me porter et me mettre dans l'eau. » Et donc, il semble qu'il y avait une espèce de légende ou une histoire comme quoi de temps en temps un ange venait agiter l'eau et puis le premier qui descendait dans l'eau était guéri, il avait gagné. C'est un peu ce que beaucoup attendent à Lourdes, dans une espèce de superstition, on attend une intervention comme cela avec de l'eau bénite. Ici, la piscine de Bethesda, on lavait les brebis. Vous imaginez la couleur de l'eau. Donc, l'eau était bénite, mais elle avait de l'odeur quand même. Mais je voudrais relever ça. Vous savez, quand on est désespéré, quand vraiment on est abattu, désespéré, on est prêt à croire n'importe quoi. Même les choses les plus saugrenues, même les fables les plus invraisemblables, on est prêt à se confier en n'importe quoi, parce qu'on est désespéré. Et c'est l'état de cet homme. Il est vraiment désespéré. Il est malade ici, il nous est dit au verset 5, il est malade depuis 38 ans. Vous imaginez, 38 ans. J'ai à peu près cet âge-là. C'est 38 ans, c'est toute une vie. 38 ans, c'est presque 4 décennies. Vous avez, c'est toute votre vie qui est passée là. Vous avez. Il est. Sa vie, c'était ça. C'était la piscine de Bethesda. C'était l'aumône. C'était les souffrances, l'infirmité. Et la Bible dit ici, Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était là, malade depuis longtemps. J'aime ce verset, cette petite phrase, Jésus sachant. Vous savez, Jésus, il sait. Il sait tout de nous. Il connaît tout. Il connaît toutes les souffrances. Il connaît toutes les choses cachées au fond de nos cœurs. Il connaît toutes les blessures du passé. Il connaît. Il connaît. Et il a compassion. Non seulement il connaît, mais il a compassion. Et Jésus lui dit, mais veux-tu être guéri? C'est la question qui tue. Veux-tu être guéri? Et lui, il est tellement pris dans cette histoire de superstition, il est tellement incapable d'imaginer que Dieu a la capacité, il ne peut pas envisager une intervention divine. La seule chose qu'il dit, c'est... Mais c'est pas possible que je sois guéri parce qu'il n'y a personne pour me jeter à l'eau. C'est-à-dire, j'ai aucune chance. Et Jésus dit, lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit. Marche. Et à l'instant même, le malade prend son lit et marche. C'est incroyable, je trouve ça. Avec Jésus, c'est une parole. Il a la puissance telle qu'une parole suffit à relever cet homme. Et le mettre immédiatement sur ses jambes. Il n'a pas marché depuis 38 ans. Ses jambes deviennent suffisamment solides pour le porter, pour marcher et reprendre son lit et le transporter au travers de la ville. Jésus, ici, il montre à la fois sa connaissance, sa science de toutes choses. Il montre aussi sa compassion, comme personne n'a compassion. Et puis, il montre sa toute-puissance. Vous avez remarqué que cet homme, il ne connaît rien de Jésus. Il ne montre aucune foi pour être guéri. Jésus, il fixe simplement son attention sur lui, au milieu de toute une foule de malades, et il le guérit. C'est touchant. Il faut noter aussi que autour de cette piscine, là, il y a tellement de monde. Et Jésus même arrive à s'éclipser dans cette foule. Ça montre que tout le monde était témoin de ce qui venait de se passer. Tout le monde a vu la chose. Et Jean y précise, verset 10, juste après le miracle, c'était un jour de sabbat. C'est tout le problème. Les Juifs, ils voyaient cet homme, et aussitôt, la première chose qu'ils font, ils le reprennent parce que d'après eux, il ne lui est pas permis de transporter son lit le jour du sabbat. Et c'est vrai, Dieu a institué un jour, le sabbat, pour que les hommes se reposent. 6 jours pour travailler, pour faire toute son activité, et un 7e jour pour se reposer et puis pour contempler l'œuvre de Dieu, pour admirer et célébrer la grandeur de l'œuvre de Dieu. Et donc, la loi interdisait le travail le jour du sabbat. Mais l'ex-malade, il n'était pas livreur de matelas. Son travail, ce n'était pas de vendre des nattes et puis de les livrer toute la journée. Ce n'était pas ça, son travail. Et quand il porte sa natte, c'est pas qu'il est en train de travailler, mais il est en train de montrer à toute la foule l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est l'objet du sabbat. De glorifier, il pouvait glorifier Dieu pour l'œuvre que Dieu venait de faire. Et eux, au lieu de s'émerveiller de cela, de glorifier Dieu pour cette guérison extraordinaire après 38 ans de souffrance. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent à lui. Et ils s'attaquent à Jésus. Tu n'as pas le droit. C'est encore plus surprenant même l'attitude de l'ex-paralysé. Il l'interroge. T'as pas le droit de faire ça. Il dit, je suis désolé là, en fait, j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Il y a un homme, je sais même pas qui c'est. Il est venu, il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors moi, je fais ce qu'on me dit. Tu sais même pas qui c'est. Tu ne sais même pas qui c'est. Vraiment. Qui est celui qui connaît tout de toi? Qui est celui qui manifeste une telle miséricorde? Qui est celui qui a une telle puissance, une telle autorité sur la maladie? Vous savez, dans le prophète Ésaïe, il avait annoncé la venue du Messie par ces termes. Notamment au chapitre 35, Ésaïe 35, il dit, je ne résiste pas à vous les lire, verset 4, il dit, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » Qu'est-ce qu'il vient de voir? Qu'est-ce qu'il vient de voir dans sa propre vie? Le boiteux vient de se lever comme un cerf et bondir sur ses jambes qui n'ont pas marché depuis 38 ans. Et tu ne sais pas qui c'est. Vous avez déjà joué au jeu au « Qui suis-je ?» Qui suis-je, c'est... On essaye avec des questions à faire deviner un personnage. Vous êtes prêts? On va jouer. Pour vous donner un exemple. Ok, dès que vous avez reconnu, vous buzzez. Alors, je suis né en 1977. Je joue très bien du piano. Attendez, j'ai été baptisé à l'âge de 12 ans. Et j'ai obtenu un bac scientifique avec mention très bien. Il y en a déjà qui ont reconnu. Voyons. J'ai obtenu une maîtrise en philosophie et un DEA. J'ai fait l'ENA à Strasbourg, puis j'ai intégré en 2004 l'Inspection Générale des Finances. En 2008, je deviens banquier d'affaires chez Rothschild. C'est bon, là, vous l'avez. En 2012, je réintègre la fonction publique et je deviens secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'Économie en août 2014. En avril 2016, je quitte le gouvernement et je fonde le mouvement politique En Marche. J'ai été élu président de la République dimanche dernier. Qui suis-je? Qui suis-je? Évidemment, Emmanuel Macron, évidemment. Mais au début, on a remarqué qu'il pouvait y avoir quelques ressemblances avec d'autres. Le principe du jeu est que les informations deviennent de plus en plus précises. De sorte qu'à la fin, il n'y a plus le moindre doute. La description ne correspond qu'à une seule personne. Eh bien, la description qui vient de se passer pour ce paralytique, cet ex-paralytique, est de la même teneur. Il n'y a pas d'autre personne qui puisse accomplir une telle œuvre, sinon Dieu lui-même. Alors l'ex-paralysé, il est lent à la comprenote, parce que quand on a fait l'objet d'un tel miracle, on ne peut pas dire « je ne sais pas ». On ne peut pas dire « je ne sais pas », à moins qu'on soit juste incrédule. Alors Jésus le rencontre au temple, au verset 14, et il lui dit « voici, tu as été guéri, ne pêche plus ». De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. La maladie ne résulte pas toujours directement d'un péché personnel. Je vais répéter ça, c'est très important. La maladie ne résulte pas toujours d'un péché personnel. L'exemple de Job, 42 chapitres dans l'Ancien Testament, tout ça pour expliquer que la maladie de Job ne résulte pas d'un péché personnel de Job. Le Nouveau Testament, on a l'apôtre Paul lui-même qui est frappé d'une maladie. Non pas parce qu'il a commis un péché particulier, mais pour l'empêcher de commettre un péché particulier. C'est intéressant. Et puis dans l'évangile de Jean, on verra ça dans quelques chapitres, chapitre 9, Jésus guérit un aveugle né, un aveugle de naissance. Il n'était pas né, il était déjà malade. Et les disciples interrogent Jésus, ils disent, mais qui est-ce qui a péché? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses parents ou qui? Et Jésus dit, non, mais ça n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et donc, c'est important de se souvenir de cela. La maladie n'est pas systématiquement le résultat d'un péché personnel. Alors, de ce fait, il ne faut pas déduire que chaque fois qu'il y a un péché de commis, la personne va tomber malade, ou qu'un malade a nécessairement commis un péché. OK ? Gardez ça en tête maintenant. Mais la Bible enseigne également que certaines maladies sont directement liées à une désobéissance. Vous vous souvenez de Marie, la sœur de Moïse, elle a été frappée de maladie. Ou Géasi, le serviteur d'Élisée, ou le roi Ozias qui est frappé de la lèpre. Ou Nebuchadnezzar, qui devient fou. Et dans le Nouveau Testament, on trouve aussi plusieurs exemples. Et l'apôtre Paul, il cite notamment aux Corinthiens qu'il y a plusieurs infirmes et que certains sont malades et que d'autres sont morts même à cause du péché. Et puis dans les livres des Actes, on lit aussi que Ananias et Saphira ont été frappés de mort à cause de leur péché. Et donc ici, il semble que la maladie de cet homme elle soit liée à un péché. Et donc Jésus, qui lui a fait grâce en offrant un nouveau départ, lui commande de cesser de pécher. La bonté de Dieu envers nous doit nous pousser à une vie sainte. La bonté de Dieu envers nous doit nous pousser à une vie sainte. Sinon, il connaîtra un sort pire que 38 ans d'invalidité et de misère. C'est quoi pire que ça? Vous voulez savoir ce que Jésus a en tête à ce moment-là? Pire que 38 ans de misère, c'est l'éternité de misère. C'est le jugement, la condamnation, l'enfer. Alors, l'homme tombe à genoux, demande pardon à celui qui a usé de tellement de bonté à son égard. C'est ça? Absolument pas. L'homme ne réagit pas du tout comme ça. Au contraire, verset 15, il s'en alla dénoncer Jésus au chef des Juifs. C'est lui, ça y est, j'ai trouvé, c'est lui qui m'a. Vous voulez un problème? Allez taper sur lui. Waouh. Il s'en va dénoncer Jésus aux Juifs. C'est-à-dire, dans son cœur, il n'y a pas d'attachement à Christ. Il n'y a pas de louange. Vous avez remarqué ça? Il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas de reconnaissance. Il dit même pas merci. Il n'y a pas de larmes de repentance. Mes amis, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. C'est Jacques qui le dit. Nous sommes les objets de la bonté de Dieu à bien des égards. Nous sommes les objets de la bonté de Dieu parce qu'il nous a donné un travail, il nous a donné une bonne santé, il nous a donné un enfant. Il nous a donné une guérison, une famille, un logement, la possibilité d'étudier. Il nous a donné des richesses. Il nous a donné un pays en paix. Mais plus encore, il nous a donné un salut immérité. Il nous a donné la grâce au lieu de la condamnation, le ciel au lieu de l'enfer. Vous savez, s'il n'y a pas de transformation, s'il n'y a pas d'aspiration à la sainteté, s'il n'y a pas de résistance au mal, s'il n'y a pas d'amour et de reconnaissance pour le Sauveur, alors craignons qu'il nous arrive quelque chose de pire, parce que l'œuvre de Dieu n'est pas faite en nous dans ce cas. L'œuvre de salut de Dieu n'est pas faite dans notre cœur si nous ne reconnaissons pas qui il est et sa grâce et sa bonté à notre égard. Cet homme, si je peux dire, il a seulement été guéri. Il passe à côté du meilleur. Si comme cet homme, vous avez été l'objet de la faveur de Dieu, alors sa bonté doit vous pousser à la repentance et à la foi. Ou bien par votre endurcissement, vous allez vous amasser un trésor de colère pour le jour du jugement de Dieu. C'est ce que dit Paul en Romains chapitre 2, versets 4 et 5. Et il emploie ici le mot endurcissement. Et en grec, c'est scléros, ce qui nous donne notre sclérose. Quand vous avez des veines qui sont sclérosées, elles n'arrivent plus à fonctionner. Elles n'arrivent plus à faire monter le sang. Et ça, c'est mortel. L'endurcissement de nos cœurs à la bonté de Dieu va provoquer notre mort spirituelle et notre mort éternelle. Alors Jésus fait un discours dans les versets suivants, 17 à 23. Vous connaissez la devise de Paris Match ? Le poids des mots, le choc des photos. Dans la guérison, on a vu la divinité à l'œuvre. Ça, c'était le choc des photos. Voilà, c'est marquant. À présent, c'est le poids des mots que l'on va entendre. Au verset 16, il dit, les Juifs viennent persécuter Jésus, poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses. J'aime aussi l'expression « ces choses ». Jean, il est... Ces choses, c'est quoi ? On parle juste d'un miracle. Un miracle, il faisait ces choses. Maintenant qu'ils savent qui a opéré ce miracle extraordinaire, ils vont l'adorer. Non, pensez-vous, non, ils vont le persécuter parce qu'il fait ces choses le jour du sabbat. Et voilà la réponse massive de Jésus au verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mon Père ne prend pas de congé, je ne prends pas non plus de congé. Sous-entendu, Dieu seul travaille le jour du sabbat, moi je travaille, qui suis-je ? Et en plus, il appelle Dieu son propre Père. Et pour les Juifs de l'époque, le Père et le Fils, hein, ils sont un. Et vous avez remarqué qu'il ne l'accuse pas de dire « Mais pourquoi tu te prends pour le Fils de Dieu ?» Non, il dit « Si tu te fais le Fils de, si tu dis que tu es le Fils de Dieu, alors tu te fais égal à Dieu. » Donc dans leur pensée, c'était très clair à l'époque que Dieu était Père et Fils. Et donc, quand Jésus dit ça, eux, ils sont convaincus, il vient de dire, c'est fou, il vient de dire qu'il est égal à Dieu. Et on sait que chez les Juifs, se faire égal à Dieu, c'est pour un homme, c'est le plus grand des blasphèmes. Et donc, ça mérite la mort. Et Jésus, il sait. Et quand il dit... Je suis un avec le Père, il sait que ça ne va pas leur plaire. Pourtant, c'est la vérité. À ce moment-là, ils sont prêts à le faire mourir. Ils veulent le faire mourir, verset 18. Et Jésus ne dit pas, « Ah, excusez-moi, non, il y a eu un malentendu, là. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Il ne dit pas ça. Non, il dit, verset 19, Il remet une couche et il le fait d'une manière tellement solennelle. Il dit, en vérité, je vous le dis. C'est-à-dire, c'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Imaginez, vous allez place du Capitole, et là vous dites, prenez une petite estrade là, et vous dites, tout ce que Dieu fait, je le fais. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux vous dire ce qui se passe. Vous êtes embarqué, hôpital marchand, direct. La clash-mise qui s'attache dans le dos. Mais Jésus dit, tout ce que Dieu fait, je le fais pareillement. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Il dit pas moins. J'agis toujours en parfaite conformité avec la volonté de Dieu. Il est en train de leur dire, je n'ai fait que ce que Dieu veut que je fasse. J'ai guéri un homme le jour du sabbat parce que Dieu voulait que je le guérisse le jour du sabbat. En vous opposant à moi, vous vous opposez à Dieu lui-même. Il dit encore, tout ce que le Père fait, je le fais. Le Père aime le Fils, il n'y a rien que le Père fasse qu'il ne montre au Fils et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Il a guéri instantanément un homme après 38 ans de souffrance. On verra qu'il fera des choses plus grandes encore. Il nourrira une foule de 5000 personnes. Il ouvrira les yeux d'un aveugle de naissance. Il ressuscitera un mort qui est déjà dans son tombeau depuis 4 jours, qui sent. Mais il fera encore une œuvre plus grande que celle-là. Par sa mort à la croix. Il fera passer une multitude de pécheurs de la mort à la vie spirituelle. Il transformera des persécuteurs en apôtres, des voleurs en donateurs, des prostituées en adoratrices, des démoniaques en évangélistes. Et il conduira dans son ciel de gloire pour l'éternité des pécheurs tels que vous et moi. Jésus, il a la même puissance de vie que le Père, il dit au verset 21. Verset 22, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice et il le fera par le Seigneur Jésus. Juger le monde, c'est la prérogative de Dieu, n'est-ce pas? Dieu seul fait ça. Et Dieu dit, j'ai remis tout jugement au Fils. Ça veut dire qu'on sera jugé par Christ en fonction de ce que nous aurons fait de Jésus. Et puis verset 23, à cause de cela, il dit que le Fils reçoit le même honneur que le Père. Il reçoit le même honneur que le Père. Il est autant digne d'adoration que le Père. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire? Si on rejoue à qui suis-je? Le Père crée et donne la vie à qui il veut. Le Fils crée et donne la vie à qui il veut. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Le Père jugera le monde, le Fils jugera le monde. Le Père doit être honoré comme Dieu, le Fils doit être honoré comme le Père. Qui est le Fils? Dieu. Il n'y a pas d'autre réponse possible. Et si le Fils est Dieu, alors nous sommes responsables de l'adorer, de l'aimer, de l'honorer. Et on ne peut pas faire comme s'il ne l'était pas. C'est pour ça que Jésus enfin lance un appel. Au verset 24, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Et vous savez, ils ont tous compris ici qui était Jésus, ce qu'il voulait dire. Et vous savez, quand les équations sont aussi simples, quand le qui suis-je est aussi simple, si on ne le résout pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas compris ou qu'on ne sait pas, mais parce qu'on ne veut pas, parce qu'on refuse de croire. Jésus a montré dans la guérison spectaculaire de cet homme qui il était. Le Dieu omniscient, plein de compassion, tout puissant. Mais ni l'ex-malade, ni les Juifs qui ont tout vu n'ont cru. Alors Jésus a expliqué qu'il était Dieu, le sauveur du monde, l'égal du Père dans sa personne, dans ses œuvres, dans sa puissance de vie, dans son jugement et dans l'honneur qui lui est dû. Et ils ont tous compris. Mais ils n'ont pas cru en lui. Alors, Jésus annonce à présent que les hommes seront jugés en fonction de ce qu'ils auront fait de Jésus. Il dit, il va y avoir une résurrection. La résurrection, c'est comme l'heure de vérité. L'heure de la résurrection, ou de la même manière qu'il a dit à cet homme, « Lève-toi, tout le monde qui va entendre la voix de Dieu va devoir se lever devant lui. » Et fléchir le genou devant lui. Et reconnaître devant lui qu'il est Dieu. Et qu'il est juste. Ici, dans la fin de notre texte, il identifie les croyants à ceux qui auront fait le bien et les non-croyants à ceux qui auront fait le mal. Vous avez remarqué ça? C'est un peu troublant. Parfois, on se dit, mais est-ce qu'on est sauvé parce qu'on a fait du bien ou on est perdu parce qu'on a fait du mal? Mais tout l'évangile dit le contraire. On a tous fait du mal et on est sauvé simplement parce que l'on croit au Seigneur Jésus. On a déjà vu ça dans les passages précédents et il vient de le dire. Celui qui écoute ma parole et qui croit à la vie et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Donc c'est une affaire de foi, pas d'œuvre. Mais pour comprendre, dans ce contexte, c'est quoi faire le bien? C'est quoi faire le mal? Tout le monde avait trouvé le « qui suis-je ?» Et tout le monde avait été témoin de la bonté de Dieu. Mais tous n'ont pas cru. Si vous répondez « Jésus est Dieu, il m'a guéri pour que je mène une vie sainte. » Je crois en lui. Je le loue pour le don de son Fils. Alors, vous agissez bien. Vous agissez selon la volonté du Père, ce que dicte la raison, la cohérence avec la révélation que vous avez de Dieu. Mais si vous dites, il m'a guéri et je ne veux pas de lui. C'est mal. Vous foulez aux pieds l'œuvre de Dieu. Vous rejetez Dieu. Donc le bien, ça consiste à croire au Fils. Et le mal, ça consiste à rejeter le Fils. En fait, nos œuvres, à nous, ne font que mettre en évidence que nous avons cru ou que nous n'avons pas cru. Celui qui écoute et qui croit dans son cœur, il a la vie éternelle. Vous avez remarqué ça? Il a la vie. Il ne dit pas, il aura un jour si tout va bien pour lui. Non. Il a aujourd'hui la vie éternelle. Ça veut dire que si nous écoutons sa parole et si nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nous, nous avons aujourd'hui, maintenant, la vie éternelle. C'est ça la foi. Elle saisit le cadeau de Dieu. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas en jugement? Pourquoi ceux qui croient échappent au jugement? Mais parce que justement, croire, c'est reconnaître que nous sommes coupables et que Jésus a payé pour nous à la croix. C'est-à-dire que le jugement pour le croyant, il a déjà eu lieu. Et ça a été le même verdict que pour les non-croyants. Tu es méchant, tu es un pécheur. C'est ça que ça dit. Et tu mérites la mort, la condamnation. Mais Jésus a pris ta place sur la croix. C'est cela. Du coup, le jugement pour tous les hommes, il a lieu à seulement deux endroits. Soit au jugement dernier, au moment de la résurrection d'entre les morts, tout le monde s'est appelé et on est jugés selon nos œuvres. Et là, la Bible dit qu'on sera tous condamnés. Ou alors, on est jugé à la croix. À la croix, on reconnaît effectivement, je suis un pécheur. Je mérite la condamnation. Mais Jésus-Christ a pris ma place. Jésus-Christ a pris ma place et il me donne la vie. Il a le pouvoir de donner la vie à qui il veut. On vient de le lire. Il est capable de mettre la vie dans votre cœur à l'instant même où vous croyez en Jésus-Christ. L'appel de Dieu, l'appel de Jésus est valable pour nous encore ce matin. Celui qui écoute ma parole. Est-ce que vous avez écouté ce matin ? Et qui croit en celui qui m'a envoyé. Envoyé pour mourir à notre place. Il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous aide à formuler votre réponse. Parce que quand il lance un appel, Jésus, on est tenu de répondre. Ne pas répondre, c'est répondre.